qui nous visitent pour la première fois ou la deuxième fois. Et souvent, on fait des séries donc sur un passage de la Bible. Et là, on est sur le livre de 1 Samuel. Et Samuel, il est un prophète dans ce moment-là de l'histoire d'Israël qui va les encourager à vivre en adoration, à regarder Dieu comme leur unique et seul Dieu, pour revenir à ce que Moïse avait déjà instauré depuis une certaine quantité de temps en avant. On a toujours une petite phrase qu'on aime bien pouvoir relire, comme ça, ça reste dans la tête. La vie que Dieu nous donne doit être vécue en complète confiance et en regardant les difficultés comme des occasions de rapprochement au trône de sa grâce pour trouver l'aide nécessaire et ainsi lui rendre gloire. Le verset biblique qui vient avec, c'est « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ça veut dire à travers Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu on est là, les Jeux Olympiques 2024. Et cette fois, c'est ici en France. C'est à Paris. Donc, évidemment, j'aime le sport, je ne suis pas très sport, mais j'aime bien regarder la télé au moins. Et j'aime bien comprendre comment ça marche, les différents sports. Et surtout le athlétisme, comment il se prépare et tout ça, on verra à la fin une vidéo que j'ai préparée pour vous. Mais ce que me fascine, c'est comment il se prépare pour courir. Déjà, il court avec des choses très légères, d'accord ? Et il court toujours en regardant vers le but, vers la fin. Ils sont des techniques. Il faut être derrière quelqu'un pour ne pas perdre, pour qu'il y ait moins de résistance contre le vent. Et il faut faire le plus long, comment ça s'appelle ? Jambes, merci. Donc il y a toutes les choses comme ça, mais il y a quelque chose qui est toujours présent dans leur esprit. Regardez toujours devant. Regardez toujours devant. Parce que le moment qu'ils font comme ça, ils tournent la tête, ils perdent la vitesse. Même si c'est petit, ils perdent la vitesse. Et là, ce que Samuel va leur dire au peuple d'Israël, c'est qu'il faut garder les yeux fixés sur Dieu. Les yeux fixés sur lui. Pas sur Samuel, mais sur Christ. Sur Dieu. Pour ce moment-là, c'était l'éternel Dieu. Pour nous, c'est Christ. Donc, les yeux fixés sur lui pour ne pas perdre de vue et l'envie de vivre pour lui. Mais cela, on voit que dans le chapitre 8 de 1 Samuel, ça ne va pas être très, très joli ce qui se passe. Parce que les gens vont regarder outre que Dieu lui-même. Je vous invite à lire pour l'instant les versets et chapitre 8 dans 1 Samuel. Donc, si vous avez votre Bible en papier ou sur votre téléphone, et sinon, ça va être aussi de toute façon affiché. 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Lorsque Samuel devint vieux, donc je m'arrête là, entre la fin du chapitre 7 et le premier verset du chapitre 8, il y a beaucoup des années qui passent. D'accord ? Donc parfois ça passe comme ça dans la Bible. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges d'Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Et ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait point sous ses traces. Et il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sous tes traces. Maintenant, établis-nous un roi pour nous juger comme il y a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donnez-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. La première chose qu'on voit ici, c'est que l'homme déçoit. L'homme déçoit. L'homme déçoit pourquoi? Parce qu'on le voit déjà de le premier verset. C'est quoi? C'est que ces hommes-là, ils commencent à regarder, pas simplement Samuel. Même si Samuel avait et avait essayé pendant longtemps de, que le peuple d'Israël regarde l'Éternel, regarde Dieu, il regardait qui? Samuel. Et maintenant, ses enfants. Joël et Abidjan. Et ses enfants ont vu quoi? Ont vu qu'ils pouvaient prendre un peu de part à cela, mais une façon de la, comme c'était marqué, de la cupidité. De garder quelque chose dans sa poche. Parce que nous avons une position, parce que là, la position de représentant de Dieu religieux était grande à ce moment, était grand à ce moment-là. Et ils sont pris, bon d'accord, je garde ma poche, je vais faire ce que je comprends mieux. Et les peuples d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de regarder Dieu, ils ont commencé à regarder l'homme. C'est la faute de qui? De l'homme. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Même si Samuel avait essayé de maintenir dans de bonnes relations, des conditions de la relation de Dieu avec Israël, ceci se dégrade par le témoignage de ses proches. Ce que je fais a une influence. Sous mon environnement, je ne peux pas prétendre que cela est normal alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Écoutez ce que dit Jérémie, la Bible, hein? Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie. Qu'est-ce que l'Israël est en train de faire? Mettre sa confiance en qui? Sur Samuel et sur les autres. Dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert en terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme. C'est le contraire. Béni soit l'homme qui se confie dans qui? Dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alors, l'homme déçoit, Dieu ne déçoit pas. Quand je mets ma confiance dans l'homme, je vais perdre de vue Dieu. L'homme va cacher tout ce qu'il peut pour se montrer fort, qui tient le contrôle de la situation et même mentir pour être renommé. Mais il se trompe car quand la vérité sort, c'est terriblement douloureux pour lui-même, même si la personne est insensible. Et aussi pour ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, avec Internet, nous pouvons trouver presque toute la vie d'une personne. Et même certaines entreprises utilisent Internet pour voir si la personne est bien pour embaucher ou pas. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. L'homme déçoit, mais notre Dieu, il ne déçoit pas. Notre Dieu ne pêche pas. N'a rien de mal. Notre Dieu est tellement parfait qu'il prend nos échecs et nos faiblesses et nous apprend à travers elles à le connaître et il sait que nous sommes fragiles. Il sait que nous sommes fragiles. Mais Joël, ça c'était un ensemble, c'était dans l'Ancien Testament. Oui, mais si on regarde simplement plus loin et après que Jésus est parti, il est monté au ciel, Pierre, l'apôtre Pierre va dire une chose presque pareille. 2 Pierre, je ne l'ai pas marqué, mais 2 Pierre 2, verset 1 à 3, dit ceci. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Et c'est un autre passage. Voilà. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, comme c'est passé avec les enfants de Samuel, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine est et ne sommeille point. Ce n'était pas seulement de ces moments-là, c'est aujourd'hui aussi. Les gens commencent à regarder la personne qui est en face et pas Dieu qui est en haut. Aujourd'hui, sur Internet, malheureusement, on a une énorme quantité de gens qui parlent et qui parlent bien, qui ont un bon charisme, mais qui, ce qu'ils disent, c'est loin d'être la vérité. Pourquoi? Parce que je peux être un bon parleur, mais si ce que les gens disent ne me mène pas à avoir ma vie en relation avec Dieu, ce sont que de bonnes paroles. Et rien d'autre. Et les bonnes paroles partent comme ça. Mais la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une eau vivante. Quelque chose qui me ressource, qui me rend la vie. Donc, l'homme va décevoir, mais Dieu ne va pas décevoir. Cela le pourquoi de garder les yeux fixés sur lui. Car, et je ne sais pas qui s'est écrit, j'écris de mauvaise façon, désolé. Car quand nous courons, nous ne perdons pas le courage. Car la course est loin d'être finie. Si je regarde l'homme, je vais perdre de vue la fin qui est Christ. Et en plus, la course, je ne la cours pas seul. Je garde, gardez ça dans votre tête, on va le voir tout à l'heure. Les cieux fixés sur lui, pourquoi? Parce que l'homme déçoit. Mes amis, si Dieu me permet d'être là, ici, aujourd'hui, devant vous, c'est sa grâce. Ce n'est pas parce que j'ai étudié plus que vous. C'est ça, c'est sa grâce. Amen. Et c'est parce que vous comprenez que Dieu m'a donné ce don d'enseignement. Il y a des autres qui sont passés par ici. Il y a aussi des armoires avec son esprit pour parler d'une façon spécifique. Et Dieu nous utilise, nous tous. C'est pourquoi on parle église. On dit église, ce n'est pas une seule personne, c'est tous ceux qui ont un jour mis leur espoir et leur foi en Christ. C'est ça l'église. Ce n'est pas quatre murs. C'est pourquoi on dit on ne vient pas à l'église, on vient se rencontrer en tant qu'église. Les cieux fixés sur lui, car l'homme de soi. Les cieux fixés sur lui, car l'homme se révèle. L'homme se révèle. On le voit déjà le verset 6, que le peuple d'Israël dit, on veut un roi. Et en plus, dans en Deutéronome chapitre 17, Dieu avait prévu cela déjà dans la loi. Ce n'était pas que ce n'était pas prévu. C'est qu'ils ont, on va le voir tout de suite. Pourquoi? Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est fort. Dieu avait prévu un roi, mais pas de cette façon-là. Donc, Deutéronome 17, il dit, je vais placer un roi. De toute façon, Dieu va le faire. Il va placer Saoul, il va placer David, il va placer Salomon, il va placer les autres. Il garde cette souveraineté pour placer les gens en autorité. Mais les gens disent, on ne veut plus de Dieu. On veut une personne. L'homme se révèle contre Dieu. Ils agissent à ton égard comme s'ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir des autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Il va aller jusqu'au verset 20. Il va les dire, le roi va prendre des vôtres, il va mettre un impôt sur vous. Il va demander qu'il vous ait des hommes et femmes, des femmes jeunes, pour être son serviteur. Il va vous demander de la terre, il va vous demander ça. Il avertit. Et au verset 20, je reviens sur ma Bible, et sur le verset 19, la Bible dit ceci. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. C'est quoi le mot? Non, dit-il. Mais il y aura un roi sous nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Non. La Bible dit en Romains chapitre 3, verset 10, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul qui cherche Dieu, pas même un seul, nul intelligent, nul ne cherche et Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Toute l'humanité dit Dieu non. On te rejette, on ne veut pas de toi. C'est pourquoi là, il dit que nous sommes sans péché. Ils nous sont privés de la gloire de Dieu. Parce que notre cœur dit non. Délibérément, non. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. C'est pourquoi il a ouvert le chemin à travers le sacrifice de Christ. C'est pourquoi il est ressuscité. Pour que faire quoi? Pour nous ouvrir ces portes à un oui. Parce que la Bible dit qu'on l'a tous rejeté. Et l'homme se révèle. Encore une fois, la Bible, je ne veux pas dire parce que c'est la Bible qui parle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans le sauvage et donc tu es inexcusable. Puisque, ayant connu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés de leurs pensées et leur cœur, son intelligence a été plongée dans les ténèbres. L'homme se révèle et Dieu dit, d'accord. On va le voir dans ce moment. L'homme déçoit et l'homme se révèle. L'homme enlève le regard sur Dieu, sur Christ, et il commence à regarder à mettre sur lui-même. Nous vivons dans une société humaniste. Nous sommes dans une société où t'as combien de plus de diplômes pour ça. Donc la France, je crois que je l'ai dit, mais je le répète, la France, c'est un des pays dans l'Europe qui a le plus de suicides. La Bretagne, c'est la région où il y a plus de suicides dans toute la France. La France, c'est le pays qui prend plus de antidépresseurs dans toute l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'espoir. Parce que c'est le gars qui lui-même. Ce ne sont pas ce que j'invente, ce sont des statistiques que vous pouvez chercher en ligne. Parce qu'on a enlevé les cieux de Christ. Le seul qui peut nous donner une réponse.
Combien de fois nous avons rejeté Dieu? Combien de fois nous disons, je le fais parce que, et nous nous justifions derrière notre justice, qui n'est pas comparable à celle de Dieu. La rébellion fait que mes yeux soient fixés sur moi et pas sur Jésus. La rébellion m'éloigne de la source de l'eau vivante. Les yeux fixés sur lui. L'homme de soi, l'homme se rebelle, mais en même temps, l'homme reçoit les conséquences de ses actes. Versets 21 et 22 de 1 Samuel dit ceci. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, donc pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous en chacun dans sa ville. Ici, il y a quelque chose d'intéressant à expliquer. Dieu est dans sa volonté, il a une volonté qui est exclusive à lui, en premier. Donc, quand Dieu dit une chose, quand il dit les choses, par exemple, comme en Genèse, et Dieu dit que la lumière soit, il se passe. Mais il y a un moment où Dieu a une volonté permissive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va laisser l'homme vivre de ce choix. Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, oui, c'est marqué que Dieu a laissé l'homme à son choix. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Et l'homme, croyant ou pas croyant, choisit. Tous les jours, on a un choix de faire le bien ou le mal. Nos parents ne l'ont pas dit, ne l'ont pas appris le bien et le mal. On le connaît déjà. On sait quand on ment, on sait quand on fait quelque chose de mal, on le sait. C'est inscrit dans nos cœurs. Dans notre intelligence, c'est déjà inscrit. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau de Dieu. Mais quand je fais quelque chose de mal, Dieu va me laisser. Je prends une décision de m'éloigner de lui, Dieu va pas venir. Dieu me va avertir comme il a fait avec le peuple d'Israël. Mais Dieu ne va pas fermer la route. À moins qu'il y ait quelque chose de spécifique, moi, dans ce moment-là. Mais Dieu ne va pas fermer la route pour que je ne tombe pas. J'ai en tête à continuer dans ma voie. Dieu ne va pas enlever cette liberté de choix. Écoutez bien ce que la Bible dit. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, en parlant de l'homme. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés, les a laissés à l'impureté, sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé leur usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant le usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant un homme avec un homme des choses infâmes, et en recevant eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, tu les as livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Mes amis, je ne peux pas dire que j'aime Dieu et après faire autre chose complètement différente. Si je dis Dieu, je t'aime, si on le chante, c'est pourquoi je vous ai dit plusieurs fois, si vous ne croyez pas ce que vous chantez, chantez pas. C'est mieux de ne pas chanter, parce que quand je chante, je suis en train de valider ce que je chante. C'est pourquoi on dit et prier à voix haute. Pourquoi? Pas qu'on crie, mais à voix haute. Pourquoi? Parce qu'on entend ce qu'on dit. Parce qu'on assume ce qu'on dit. Mais quand je commence à dire, par exemple, mon fils, parfois, il dit, papa, il y a beaucoup de copains, de copines à l'école qui parlent beaucoup avec des gros mots. Pourquoi ils parlent avec des gros mots? Ma réponse, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Parce qu'une fois qu'ils leur disent, ils pensent qu'ils sont, waouh, j'ai dit ça, donc, waouh. Mais ils ne savent pas que leurs paroles ont une conséquence sur la personne qui est en face. C'est pourquoi Dieu nous dit attention à ce que fais attention, pense avant de parler. Tout ce que je vais entreprendre dans ma vie a une conséquence. Au premier pour moi et après pour ceux qui m'entourent. Et Dieu ne va pas me freiner. Mais je vais décider comment je vais courir à cette course. si les cieux fixés sur lui, ou sur un homme, ou sur moi-même. Voilà. Parce que quand je cours avec les yeux fixés sur lui, je vais recevoir quoi? Sa paix. Sa paix. Regardez ce que Hébreux 12, 1 et 2 dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins, donc parlons de Hébreux chapitre 11, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Rejetons, vous n'avez jamais vu un athlète courir avec un manteau ou avec des pantalons longs, n'est-ce pas? Avec une chaîne comme ça, ouais, non. Pourquoi? C'est inutile. Les plus légers, c'est mieux. Bon, la Bible dit la même chose. Donc, tant qu'on a tous les... La parole de Dieu nous dit, on a beaucoup de témoignages qui nous disent comment courir, comment enlever le péché, comment continuer avec les yeux fixés sur lui. Dis quoi? Rejetons tout fardeau et commençons cette carrière, mais comment? Ayons le regard sur qui? Sur Jésus. Voyez, il ne dit pas sur mes acquis, il ne dit pas sur ceux que je connais, il ne dit pas sur moi, c'est sur lui. Donc, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la gloire, de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du temps du Père. Donc, il est ressuscité. Il dit, regardez-moi, je peux vous aider à courir de meilleure façon. Les yeux fixés sur lui. Il y a quelque chose de plus. Quand nous regardons les yeux fixés sur lui, nous avons la paix de Dieu qui nous garde tout au long de notre voyage sur cette terre. Avec sa présence, en nous, inconditionnellement, nous pouvons avancer en toute sécurité, que n'importe ce qui viendra, il sera là, car il a les yeux fixés sur nous. Je ne sais pas si vous m'avez entendu dire. J'ai changé un peu les choses. Il faut garder les yeux fixés sur lui. Et en même temps, il a les yeux fixés. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Regardez ceci. Vous allez voir un homme qui s'appelle Derek Redmond. Cet homme se déchire en demi-finale de 400 mètres en Barcelone 92. Il s'était préparé dans toute sa vie pour ça. Ce n'est pas long le vidéo. Donc tout le reste, il vient, mais il dit, donc, je vais continuer, je peux le faire. Vous voyez, vous pouvez voir son visage, n'est-ce pas? Je peux le faire. Mais regardez qui vient derrière. Vous savez qui est cette personne? Son père. Son père qui regardait depuis la foule. Il est. Je vais t'aider à arriver à la fin. Il n'a gagné aucune médaille. Mais il a fini la course. Mes amis, son père était là. Son père était présent, il regardait. Même en moment difficile de la course, il regardait. Notre Père Céleste regarde, mes amis. Il a les yeux fixés sur vous et sur moi. Pourquoi? Pour venir à notre aide. Pour finir notre course avec son aide. Pas tout seul, parce que je ne peux pas tout seul. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse que j'ai en moi m'empêche de courir comme il faut. Il me faut quelqu'un à mon côté. Et il n'est pas loin, il n'est jamais loin. C'est pourquoi la Bible nous encourage à venir à lui. La Bible dit en Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Sur toi. C'est vraiment une beauté. C'est quelque chose d'exceptionnel. Dieu a fixé les cieux sur nous. Il nous a aimés avec une croix. Son sang qui peut effacer tous nos péchés. Je vous invite à prier.